Chapitre 29, France. Le 5 mars au matin, le Santa Lucca mouillait dans le port de Livourne. Un grain à hauteur de l'île d'Elbe avait été le seul incident du voyage. Le bateau était à peine à quai qu'un télégraphiste bondissait sur le port demandant « Il signore Lavared ?» Averti, celui-ci se présenta, et le messager lui remit une dépêche. « Un télégramme à moi ici, mais quel diable peut... » Très intrigué, il regarda d'abord la signature. « De Murlyton, ah, bien, il m'annonce un retour de Miss. » Il y avait bien de cela, mais ce n'était pas tout. La dépêche disait « Enlèvement aux raids simulés était manœuvre Bouvreuil pour vous duper. Pas loyal, profiter situation. Correct, vous avertir. Ma fille près de moi vous dit « Continuez voyage, vous retrouverez à Paris 25 chez notaire, puisque peu plus contrôlé, munissez-vous certificat indiquant moyen de transport employé. » Truly, Murlyton. Un instant, le jeune homme demeura immobile. Une joie intense chantait en lui. Aurette ne courait plus aucun danger. Et c'était elle, la chère enfant, qui lui disait dans la sécheresse laconique du télégramme « Poursuivez votre route, mon cœur est avec vous, je veux que vous arriviez vainqueur. » Quelques secondes accordées au sentiment, et puis le Parisien se retrouva plein d'ardeur. Il fallait des certificats, tout d'abord celui du capitaine du Santa Lucca. Celui-ci ne fit aucune difficulté d'attester que pendant la traversée de Messine à Livourne du 29 février 1892 au 5 mars, Armand avait rempli avec zèle et habileté les fonctions de mécanicien à son bord, et ce, sans aucune autre rétribution que sa nourriture. Il octroya non moins gracieusement à ce marin, modèle, quelques feuilles de papier à lettres, et séance tenante, Lavared plaça sous enveloppe les 200 francs empruntés à Sir Murlyton, convertis en un chèque par les soins du capitaine Antonelli. De sa plus belle écriture, il moula cette suscription à Maître Panabert, notaire rue de Châteaudun, Paris, pour remettre à Sir Murlyton, Esquire. Une fois à terre, la blague reprit le dessus. « J'ai 25 centimes à dépenser, c'est le prix d'un timbre-poste dans tous les pays de l'Union postale. Rien ne m'empêche donc d'affranchir ma lettre à Maître Badamer. » L'épître jetée à la poste, le voyageur se préoccupa d'obéir à la dépêche de ses deux amis. Le patron d'une tartane complétant son équipage l'embaucha, et de Livourne à La Spezia et à Gênes, il apprit le jour la manœuvre de la voile latine et la nuit la pêche à la traîne. À Gênes, il passa sur une autre barque et jusqu'à Vintimille fit successivement la guerre au thon, à l'éponge commune et au corail rose. Une journée de marche pédestre sur la merveilleuse route de la corniche d'en haut amena le journaliste à Monaco où, pour arriver à Nice, il suivit la corniche d'en bas au bord de la mer. Là, un matelot ayant été grièvement blessé dans une rixe, Lavared le remplaça sur un caboteur chargé d'oranges et de grenades. Débarqué à Toulon, le voyageur eut la bonne fortune de rencontrer le yacht d'un ami parisien, fils d'un chocolatier connu dans les cinq parties du monde. Très intéressé par le récit de ses aventures, celui-ci offrit à Armand de le conduire à Marseille sur son yacht de plaisance qui flânait dans la Méditerranée sans but. Autant aller à Marseille qu'ailleurs. Bref, le 16 mars, à 8h du matin, le journaliste mit le pied sur le quai de la Joliette. Son premier cri fut un cri de joie. « Terre natale, terre de France, je te revois enfin, et je te salue. Ah, c'est bon de respirer l'air du pays. Et comme il aspirait à plein poumon, « Sapristi ! » fit-il gaiement. « Il n'est pas aussi pur qu'à Nice, et sent terriblement l'ail et le savon, mais enfin, ici ou là, c'est tout de même la patrie. » Il rangea ce qu'il appelait ses papiers, c'est-à-dire les attestations de ses patrons de hasard, depuis celui de la tartane jusqu'à l'obligeant Yachman. « Comme ça, je ne passerai pas pour un vagabond. » Le plus grand danger que je cours maintenant. Je ne me vois pas pincé par la gendarmerie qui, avec la placide lenteur de notre administration, attendrait pendant 3 mois la preuve de mon identité. Avec ces paperasses, je suis tranquille. Mais bientôt, sa satisfaction fit place à des réflexions pénibles. Je suis à 865 kilomètres de Paris. Inutile de songer à les faire à pied. Le temps me manque. Donc, il me faut trouver un véhicule. Mais lequel? Lequel? Voilà la question. Ici, il ne s'agit plus d'employer les moyens héroïques. Je suis en pleine prose à présent. Il faut trouver des trucs, comme on dit au boulevard. Parbleu, le chemin de fer lui plaisait. S'il avait connu un chef de gare, il aurait pu rentrer à Paris comme il en était parti. La moindre caisse eût fait son affaire seulement. Il ne connaissait personne à Marseille. Tout en songeant, l'avarait de remonter la Canebière. La large voie, bordée de magasins, de cafés, d'agences commerciales ou maritimes, était encombrée de voitures. Les balles de café de coton se croisaient avec les emballages des savonneries. Les chariots roulaient lourdement, les conducteurs s'invectivaient, les chevaux hennissaient. Sur les trottoirs, des hommes chargés de fardeaux se croisaient en tous sens, avertissant les promeneurs d'avoir à se garer par des cris aigus, des exclamations sonores. Les thés, les bonbons, les péquers heurtaient les trundadiou et les pataflocs dans un vacarme assourdissant. Calmes au milieu du tohu-bohu, les petits décrotteurs circulaient en casaque uniforme, sautaient au pied du passant arrêté, d'une brosse légère, enlevaient la poussière blanche, ternissant le vernis de la chaussure. Évitant les chocs, la varenne arriva sur le cours Belsens. Le promeneur remarqua 2 hommes qui sortaient d'un café au coin de la rue pavée d'amour. Ils parlaient haut en vrai marseillais qu'ils étaient de la tête aux pieds. « Eh !» disait l'un, « viens donc déjeuner, Baudron !» L'autre résistait, « Ah non, je dois me rendre au dépôt des mécaniciens et chauffeurs, la belle affaire. Les roulements, ils sont établis sans toi. Tout chef du dépôt que tu es, ils s'exécuteront bien sans toi. Seulement si mon absence était constatée, je serais à l'amende. Non, non, tu emmèneras le petit, voilà tout. Accompagne-moi un peu, il doit être à jouer par là. » La varenne avait dressé l'oreille. 7 fois il la tenait, son idée. Ex-mécanicien d'un steamer, il saurait bien chauffer une locomotive. Et il avait le chef de dépôt sous la main. Mais comment l'intéresser à son sort? Il suivit les 2 hommes qui montaient vers les allées de Meillan, se rendant ensuite à la gare Saint-Charles. Ils s'arrêtèrent et l'employé de chemin de fer montra à son compagnon un groupe de gamins sur le trottoir opposé. « Tiens, voilà Victor, tu le prendras avec toi et Victor ici, ici !» À cet appel, lancé d'une voix de stentor, l'un des joueurs leva la tête. « Tiens !» s'écria-t-il, « c'est le père !» Et il bondit sur la chaussée pour rejoindre l'auteur de ses jours. Dans sa précipitation, l'enfant n'avait pas aperçu un camion qui arrivait à fond de train. Le chariot lancé allait écraser le petit. Les promeneurs virent le danger, ils poussèrent un cri d'épouvante et, brusquement, ils se turent stupéfaits. La varenne n'avait pas crié, mais s'était élancée. D'un revers de main, il avait culbuté le petit en dehors de la ligne suivie par les chevaux, et la voiture passait, il l'enlevait dans ses bras et le rapportait tout étourdi encore à son père. Oh, celui-ci était littéralement fou. Il embrassa le gamin, serra la main du sauveteur, fit de grandes démonstrations, gesticula, pleura, commença des phrases qu'il ne finissait pas. Enfin, il remit un peu d'ordre dans ses idées, et Armand put percevoir ces mots. « Ah, vous avez sauvé Ithor. Souvenez-vous du père Baudran. Il vous est dévoué jusqu'à la mort. » Le Parisien sourit et appuyant sa main sur l'épaule du Marseillais. « Comme cela se trouve, dit-il, j'ai besoin de vous. »«
De moi ?»«
Précisément, j'ai entendu sans le vouloir votre conversation. Monsieur se charge de votre petit Victor. Une promenade et un bon déjeuner lui ôteront jusqu'au souvenir de sa frayeur. En nous dirigeant vers la gare, je vous expliquerai mon affaire. » Avec des manifestations et des gesticulations exagérées, les amis se séparèrent et le chef de dépôt resta seul avec le Parisien. Ce dernier avait déjà préparé une histoire. Il habitait Messine, vivant difficilement au jour le jour, quand il apprit la mort d'un parent à héritage. Le décès datait de loin, et le 25 mars, on atteignait le délai de prescription. Ses lettres au notaire demeurant sans réponse, il s'était embarqué comme mécanicien, il avait ses preuves en poche, arrivé le matin même à Marseille, et il se trouvait sans argent. Baudran fronça le sourcil. Oh, ce discours lui semblait devoir aboutir à un emprunt. Mais Lavarède conclut négligemment. Or, demander l'aumône, solliciter un prêt, sont choses usuelles chez les gens qui ont l'habitude de l'oisiveté. Elle ne saurait me convenir. Je suis un travailleur, moi, et ce que je demande, c'est un travail grâce auquel je puisse me rapprocher de Paris. Ah, très bien, souligna le chef de dépôt, visiblement soulagé. Puis, par réflexion, mais nous, cela ne me dit pas ce que vous attendez de moi. Mais si. Ah, vous trouvez? Ben, c'est clair. Ex-mécanicien, je saurais bien chauffer une machine et vous auriez toute facilité pour m'en confier une. Baudran se gratta le nez. Diable, diable, ce n'est pas commode. Vraiment? Ben, sans doute, la compagnie a ses mécaniciens et chauffeurs classés après examen. Les roulements sont établis et à moins d'un accident. Ben, provoquons-en un. Provoquer un accident? Clama l'employé avec ahurissement. Ou plutôt, continua Armand, un incident, un trou dans le roulement. Tenez, vous m'êtes dévoué à la vie et à la mort. Du moins, vous l'affirmiez tout à l'heure. Je ne m'en dédie pas. Eh bien, menez-moi au dépôt, invitez-moi à déjeuner et à dîner aujourd'hui. Bon, de plus, faites-moi cadeau d'un litre d'eau de vie. Avec cela, je me charge de mettre un chauffeur hors d'état de partir. Voilà l'incident demandé. Je remplace l'homme au pied levé et je file sur Paris. La proposition égaya fort Baudran. Ah, tenez, s'écria-t-il, vous êtes un malin. Venez donc. Les agents attachés à ce dépôt font le service jusqu'à Tarascon seulement. Je vous donnerai un mot pour mon collègue, il vous enverra plus loin. Les causeurs étaient arrivés à la gare Saint-Charles. Derrière son guide, le journaliste pénétra sur les quais, traversa les voies et gagna le dépôt. 10 minutes plus tard, ses souvenirs de l'école de Brest aidant, il avait fait preuve d'une connaissance des machines suffisante pour que Baudran n'eût aucun scrupule, aucune inquiétude. Le chef de section le fit déjeuner. À 2 heures, au moment où une locomotive chargée de ses servants rentrait, il lui remit le litre de cognac réclamé. Armand scrutait le visage du chauffeur qui arrivait. Sous la poussière de charbon dont cet agent était masqué, son nez rutilait. Quel indice ! La Varenne se pencha à l'oreille de Baudran. Un mot, quand repartent-ils, ce gaillard-là ? Voyez le roulement, 00:52, par train de marchandises 3014. Pas entendu, c'est ce train que je choisis. Et laissant le chef de dépôt, il se rapprocha de l'agent qu'il aspirait à remplacer. Le chauffeur nettoyait la locomotive. Le Parisien le questionna, se donnant pour un sous-ingénieur de l'exploitation de passage au dépôt pour 24 heures. L'ouvrage achevé, il savait que son interlocuteur s'appelait Dalmuche, qui n'était pas satisfait de son sort, état d'esprit commun à tous les employés, et qu'ils iraient être promus mécaniciens. Armand feignit de s'intéresser à ses racontars, ce qui flatta le chauffeur. Il lui promit de le recommander à la direction, ce qui le charma, et pour finir lui fit avaler un verre de cognac. Ah, du coup l'homme fut conquis. Son nez rubescent n'avait pas trompé l'observateur. Il appartenait à un ivrogne. Dès qu'il aperçut le litre d'alcool, l'agent se sentit pris pour le soi-disant ingénieur d'une vive tendresse. Au lieu de consacrer au sommeil les heures affectées au repos par le roulement, il voulait accompagner son nouvel ami, le piloter dans Tarascon, lui montrer le pont du Rhône. Mais la Varenne le calma d'un mot. « Reposez-vous bien, après le dîner, nous finirons la bouteille. Cela éclaircit les idées. » Chose promise, chose due, à 8 heures, les deux hommes s'attablaient en face l'un de l'autre, le flacon de cognac entre eux. À 11 heures, Dalmuche ronflait sur la table après avoir séché la bouteille. « Il en a au moins pour 12 heures à cuver son eau de vie, » grommela le chef de dépôt, qui avait suivi avec intérêt les manœuvres de la Varenne. « Je n'ai plus qu'à porter l'incident sur ma feuille. Pas d'autre chauffeur disponible, alors je vous engage. Ma responsabilité est à couvert. » « Cependant, objecta le jeune homme, vous n'inscrirez pas le motif ivresse. Pourquoi ? Je ne veux pas causer d'ennui à ce pauvre diable. Mettez indisposition subite. Ah, je veux bien. » Et se frappant le front, Baudran ajouta, « Mieux que ça, indisposition colériforme. » Le journaliste le regarda surpris. « On parle donc du choléra en France ? Ah ça, vous ne lisez pas les journaux ? J'arrive. » Ah, c'est juste. Sachez donc que les feuilles racontent une foule d'histoires de microbes, si bien que personne n'en a la maladie, mais que tout le monde en a peur. Si vous avez un coryza, les médecins le trouvent aussitôt colériforme. Une fluxion devient nostras, un colombier asiatique, par conséquent... Oui, eh bien, colériforme fera bien sur la feuille. Sur ce, la Varenne secoua vigoureusement la main du brave homme, glissa dans sa poche sa lettre de recommandation pour M. Berluret, chef du dépôt de Tarascon, et sauta sur la machine. Sur sa prière, Baudran lui remit en outre un certificat établissant l'emploi de sa journée. À 00:52, le cheval de feu, comme disent les Arabes, s'ébranlait, entraînant à sa suite les 24 voitures du train de marchandises 3014. Par suite de la rupture d'un essieu, on perdit plus de 2 heures à Rodiac et l'on arriva à Tarascon à 8 heures. M. Berluret, en congé, n'était pas au dépôt. On indiqua à la Varenne le garni où il logeait. La maison était proche de la gare. Le rez-de-chaussée était occupé par un débit de vin dont le patron contemplait la devanture avec une expression de désespoir. « Ah, monsieur Berluret, répondit le commerçant à la question du journaliste. Il prend ses repas chez moi, comme presque tous les employés du chemin de fer, mais il est à la fête de Lunel et ne rentrera que demain. Et sans remarquer l'air désappointé de son interlocuteur, il grommela. Oh, le diable emporte les fêtes votives! Armand fut frappé de son accent rageur et avec une commisération hypocrite. « Ah, la concurrence, dit-il, cela vous prive de vos clients. »« Oh, je suis au-dessus de ça. Je bougonne pour la façade de ma maison. »« Ah, dame, je fais venir un peintre pour la remettre à neuf. Il gratte l'ancienne peinture, brûle le bois et crac, il file à Lunel. Et je le connais. » Quand il est en os, il en a pour 8 jours. Pendant ce temps, mon établissement va rester dans cet état-là. De fait, le débit avait un aspect piteux. Le visage du voyageur se dérida. Il serait bien étonné, souvint-il au marchand de vin, si à son retour il trouvait la boutique repeinte. Ah, il le mériterait. Seulement voilà, je devrais faire double frais. « Bon, non. Comment non ?»« Tenez, déclara la marraine, je vais être franc. L'absence de M. Berluret me gêne beaucoup. Service pour service. Assurez-moi la table et le coucher pour 24 heures et je repeins votre façade. » Le marché était avantageux. Le commerçant fut tôt convaincu. Son épouse, une commère réjouie, au nez retroussé, courut chez un marchand de couleurs et rapporta les ustensiles et ingrédients nécessaires, plus un vernis désigné par le voyageur, qui le mélangea adroitement avec les matières colorantes. 1 heure après son arrivée, le Parisien, couvert d'une blouse obligeamment prêtée par Madame Félicité Coulleg, la patronne, badigeonnette avec entrain. Souvent, Madame Félicité sortait pour voir si tout marchait bien. En réalité, elle avait été séduite par la physionomie fine du peintre, par ses yeux rieurs, par un je ne sais quoi qu'elle n'avait rencontré chez aucun de ses clients habituels. Et puis jamais dans le pays on n'avait vu un ouvrier aussi expéditif. Grâce au vernis demandé par la marraine, la couleur séchait presque instantanément. Si bien qu'au soir, la boutique avait reçu 2 couches de bleu ciel sur lesquelles se détachaient des filets noirs et le nom du débitant, Aristide Crouilleg, en jaune. C'était superbe. Le négociant exulta. Il proclama son hôte grand artiste et si sa femme ne prononça pas une parole, ses regards furent éloquents. Comme la signora Talenti à Messine, elle rêvait peut-être d'attacher le peintre à son établissement. Un vrai don juan, cela va raide. Pas une n'échappait de la fascination. Le lendemain matin, un mot de M. Berluret était apporté par un camarade. Le chef de dépôt mandait à Crouleg qu'ayant rencontré à Lunel d'anciens camarades de l'école des arts et métiers, il prenait, sur autorisation de ses supérieurs, 5 jours de congé. À cette nouvelle, Armand ressentit un choc. Il ne pouvait rester à Tarascon jusqu'au 22 ou 23 mars. Oh, certes, d'ici là, il ne manquerait de rien. Ravi de le conserver, Madame Félicité se chargea de lui trouver de l'ouvrage. Au besoin, elle lui fait badigeonner les manches à balai aux couleurs nationales. Jamais son mari n'avait soupçonné qu'il y eût tant de choses à peindre dans la maison. Et Armand couvrait de teintes variées des objets divers, tout en cherchant une idée qui ne venait pas. Pour atteindre Paris en temps utile, le chemin de fer seul était un véhicule assez rapide. Une visite à la gare lui prouva qu'il ne trouverait aucune aide de la part du personnel, tremblant sous le commandement d'un chef sévère. La journée du 18 mars avait fui, celle du 19 s'avançait. Désespérément, la Varède maniait son pinceau. Il s'était juré de quitter la ville le lendemain coûte que coûte non plus pour arriver à Paris, mais pour changer de place, pour échapper à l'excitation nerveuse qui le gagnait. D'une armoire de bois blanc, il venait de faire un meuble en acajou et prenait sur le comptoir le vermouth offert par le patron quand un homme d'équipe entra. « Dites donc, collègue, fit-il, demain matin, vous aurez deux déjeuners en plus. » Le commerçant inclina la tête. « Ah, vous attendez des amis ? Non, mais les employés du bureau ambulant. » « L'ambulant du train poste 4, Marseille-Lyon, mais pourquoi ?»« Ben parce que la correspondance de Pépignan 7 sera en retard. »« Ah, vous savez cela d'avance ? Dame, un éboulement près de Narbonne, service provisoire en voie unique, résultat, désœurement des trains. »« Mais vous en plaignez pas, il y a un certain Poirier ambulant. » qui n'engendre pas la mélancolie, il boit, il mange. Voilà un qui n'a pas peur du choléra. » Madame Félicité écoutait à la porte. Elle poussa un gloussement effrayé. « Oh, ne prononcez pas le nom de cette horrible maladie !» Sa voix tremblait. « Bon, fit l'employé, qu'avez-vous ? Ce que j'ai, allez au coin de la rue et lisez l'arrêté du maire, vous m'en direz des nouvelles. » En cas d'indisposition constatée, faire transporter le malade à l'hôpital d'urgence afin de ne pas contaminer les maisons particulières. La marraine fit un brusque mouvement. Le train 4 devait attendre ici. Le personnel de la gare ne comptait donc pas d'ambulance auxiliaire que l'on pût expédier avec les dépêches du midi par un autre train. Un éclair traversa son regard, tandis que ses lèvres s'écartaient sous l'effort d'un sourire involontaire. Tarascon n'agaçait plus Armand, les Croyègues lui devenaient supportables. Pour un peu, il les aurait embrassés. Le lendemain, dès le matin, la boutique fut remplie de consommateurs. C'était un dimanche, et chacun sait que ce jour-là, on boit pour tout le reste de la semaine. Les carafons se vidaient, les verres s'entrechoquaient, un relent d'alcool flottait dans l'air. On causait de la ville, des marchés, des constructions, des récoltes, de politique, surtout de la politique locale. Comment ces conversations aboutirent-elles à l'épidémie colérique ? Nul ne saurait su le dire. Pourtant la chose arriva, et la pauvre cabaretière qui allait de table en table, parée de la robe et du bonnet des dimanches, sentait ses jambes se dérober sous elle en entendant résonner à ses oreilles le nom du terrible ennemi envoyé par l'Asie conquise à l'assaut de l'Europe victorieuse. D'abord, ses traits s'étaient couverts d'une teinte pivoine, puis graduellement, la malheureuse avait pâli. Son nez retroussé palpitait au milieu d'une face blafarde quand, à midi et demi, les employés de poste du bureau ambulant du train 4 vinrent s'installer pour déjeuner. Leur train attendait en gare les correspondances du midi. Aussitôt la marraine courut à Madame Crouyeg. « Remettez-vous !» lui dit-il avec un accent dont la commère se sentit troublée. « Ces bavards vous ont épouvanté. Je vais servir ces messieurs. » Les roses revinrent au jour de la dame. Elle accepta d'un geste de reine, remettant les soucis du gouvernement à un favori. Et léger, gracieux, parisien jusqu'au bout des ongles, Armand, la serviette sous le bras, prit la commande des postiers. Puis il disparut avec un « boum, voilà !» dont tressautèrent les compatriotes de Tartarin rassemblés dans la salle. Dextrement, il assura le service. Seulement, ce que personne ne put voir, il saupoudra les portions de l'un des agents d'une poudre blanche contenue dans un flacon dérobé sur la cheminée de Félicité. Petit flacon à quatre faces sur chacune, desquels on pouvait lire ces mots éloquents en relief « Magnésie anglaise ». L'agent, qui n'était autre que le fameux Poirier annoncé la veille, mangeait gloutonnement, s'interrompant tout au plus pour déclarer que la cuisine tarasconnaise avait un petit goût particulier. Pas désagréable, au fond, on s'y faisait vite. Imperturbable, le journaliste écoutait les appréciations du postier. Tout à coup, celui-ci cessa de dévorer. Il regarda à droite et à gauche d'un air surpris, promena une main inquiète de l'épigastre à son abdomen. « Qu'as-tu, Poirier ?» demanda son compagnon. « Je ne sais pas ce que j'ai, c'est curieux. Je te demande pardon, Tolinon, je reviens de suite. » Tout courant, Poirier accosta la varède, lui parla bas, en reçut une réponse et fila comme une flèche dans un large terrain vague situé derrière le débit. Tout au fond, on distinguait une petite tonnelle de pierre sur la porte jaune de laquelle s'étalait le nombre 1000. Dans le nord, on se contente de signaler ce lieu par le chiffre 100. Ce n'était pas assez pour la faconde tarasconnaise de Crouyègue. Il a ajouté un zéro. Une grosse clé rouillée était sur la porte. Poirier disparut dans la maisonnette, confidente discrète de plus d'une souffrance, et après quelques instants de méditation, songea à aller retrouver son ami. Mais il eut beau pousser le battant de chêne, celui-ci refusa de tourner sur ses gonds. Il s'épuisa en vains efforts, criant, hurlant. On ne l'entendait pas de si loin. Durant une demi-heure, l'infortuné rugit dans sa prison. Enfin, un bruit de pas arriva jusqu'à lui. Il poussa un soupir de satisfaction. Ses appels avaient été entendus. On venait le délivrer. La porte s'ouvrit. Il se précipita, un remerciement aux lèvres, mais un drap de toile s'abattit sur sa tête. Avant qu'il eût pu protester contre cette nouvelle mésaventure, il était renversé, garrotté, couché sur une civière et emporté par deux hommes vers une destination inconnue. Au milieu d'un groupe de gens affairés réunis dans le terrain vague, Lavarède pérorait. Il se contraignait à la gravité encore qui lui fait tout le mal et qui eut une forte envie de rire. Derrière Poirier, il avait quitté la salle commune du débit. D'un tour de clé, il avait emprisonné le pauvre ambulant, et quand son collègue Tolinon s'était inquiété de sa longue absence, il avait crié « Moi, je vais voir, monsieur !» 5 ou 6 fois, il avait faim de s'enquérir du portier. À chaque voyage, son front se rembrunissait. Au troisième, il avait murmuré tout bas, en pensant près de Madame Félicité « Oh, si c'était le choléra !» Au quatrième, il ajouta « Oh, s'il allait mourir là !» La cabaretière avait perdu la tête, dépêché son mari au commissaire spécial de la gare, et le fonctionnaire, accompagné de 2 porteurs et d'une civière, avait enlevé Poirier pour le transférer à l'hôpital ainsi que le prescrivait l'arrêté du maire. Maintenant, l'autre postier, Tolinon, se lamentait. Il restait seul pour assurer le service entre Tarascon et Lyon. Jusque-là, pas d'auxiliaire. Bien certainement, il commettrait des erreurs qui nuiraient à son avancement, car si l'administration se dérobe à toute responsabilité vis-à-vis du public par la rubrique connue « cas de force majeure », elle ne permet pas à ses agents d'user de la même excuse. Bon, fit une voix auprès de lui. « Pendant la guerre turco-russe, j'ai fait de service dans les Balkans. Si vous voulez, je vous seconderai. » Tolinon se détourna, Lavarède le regardait souriant. Il disait vrai, enfin presque. Correspondant de son journal, les circonstances l'avaient amené en Turquie à convoyer un courrier pour être sûr que son envoi partirait, ce qui n'arrivait pas toujours en ce temps-là dans l'Empire ottoman. Dans la position de l'ambulant, un homme un peu au courant était le salut. Après quelques répliques rapides, il serra les mains du Parisien. « Venez donc, car l'heure du départ est proche. à l'instant, courir à Madame Félicité, lui adresser un adieu ému, lui arracher un certificat de bonne peinture, fut l'affaire d'une minute. Bientôt, triomphant, le voyageur montait à la suite de Tolinon dans le wagon des postes, et le train démarrait, l'emportant vers Lyon, au lieu et place du sieur Poirier, que les infirmiers de l'hôpital de Tarascon soignaient avec un dévouement dont le patient pensa devenir fou. Montélimar, Valence, Vienne, Givors défilèrent sous les yeux du journaliste, chargé par Tolinon du lancement des sacs de dépêche au passage des gares franchis sans arrêt. Et il les lança, ces sacs, avec un entrain tel que, durant une semaine, le service de la poste subit dans les départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère et du Rhône une perturbation dont les habitants conserveront longtemps le souvenir. Lyon, Perrache ! À ce cri d'un employé, la varenne dut résilier ses fonctions. Tolinon le présenta au chef de gare, qui le félicita chaudement. On ne connaissait pas encore les fantaisies de sa distribution. Les sous-chefs, inspecteurs, commissaires de surveillance tinrent à honneur de lui serrer la main. Toute cette gloire ne l'empêchait pas de se retrouver sur le pavé. Mais il lui fit bonne contenance, confia à Tolinon qu'il se proposait d'entrer dans les postes, lui extorqua ainsi un certificat pour servir à telle fin que de droit, et tira de son côté en grommelant. Grâce à la craditude de cet imbécile, tout le personnel de Perrache me connaît, alors rien à faire pour moi ici. Éloignons-nous. Allongeant le pas, il traversa la ville et gagna la campagne. Comme cela au moins, dit-il, je pourrais passer la nuit à la Belle Étoile sans risquer d'être arrêté par la police. Tout en marchant, il soliloquait. Voyons, récapitulons un peu ce que j'ai déjà été depuis quelques jours. De Livourne à Marseille, pêcheur, caboteur et touriste. De Marseille à Lyon, chauffeur, peintre et postier. Qu'est-ce que l'avenir me réserve et que serai-je demain ? Après un soupir, il conclut joyeusement : « Baste, me voici presque à mi-chemin de Paris, c'est toujours cela de gagner. Avanti, adelante, forwards, go ahead, je l'ai déjà dit en bien des langues, maintenant en français, en avant !» Chapitre 30 et dernier. À la course. La soirée était avancée que la varède marchait encore. « Où suis-je ? » se demanda-t-il, car il avait traversé plusieurs villages. À travers les forêts de la salle basse d'un bâtiment rustique, une lumière filtrait, éclairant un poteau indicateur. « Saint-Germain au Mont-d'Or. » « Bon, c'est bien la route de Paris. Il s'agit de trouver un gîte pour cette nuit. Ceci a l'air d'une ferme importante. Frappons. » Le bruit d'une conversation animée cessa aussitôt. À la campagne, on est méfiant, et l'on n'aime pas surtout les mendiants, cheminots, traîneurs de besaces. Il se le rappela rien qu'à la rude façon dont on lui répondit « Qui va là ?» Il se donna comme un fameux marcheur, un recordman, puisque les records sont à la mode. « Le célèbre Lavarède, qui est allé de Dunkerque à Perpignan en 10 jours. Eh bien, c'est moi. Je reviens maintenant de Perpignan à Dunkerque. Vous savez bien, tous les journaux ont parlé de cette course. »« Oh, c'est vrai. Je l'ai lu, » dit un gars de la ferme. Victor Hugo avait bien raison. On trouve toujours quelqu'un qui a vu et qui sait mieux que les autres. Et puis, il y a eu tant de records et de courses depuis quelque temps qu'on pouvait confondre. Et Armand y comptait bien un peu. « Je viens simplement vous demander une botte de paille pour cette nuit dans un coin d'étable. »« Oh, ça se refuse jamais, ça. Oh, je paye toujours mes dépenses, mais aujourd'hui, je suis obligé de faire exception. Profitant de la presse, quand on m'attendait au passage à Lyon, un filou s'est glissé dans le public et m'a fait mon porte-monnaie. Je ne peux plus trouver de subside qu'à Villefranche, au contrôle de la course à pied. Aussi, je me contenterai d'un morceau de pain et d'un verre d'eau. » Demandé sur ce ton, le crouton de pain se transforma en une tranche de lard, une assiette de choux et même un délicieux petit fromage de chèvre du pays, le tout arrosé d'un franc vin clairet. Le fermier et son fils avaient repris leur discussion. Ils parlaient du marché de Tonnerre dans l'Yonne. Jean, le fils de l'agriculteur, devait y mener 14 chevaux, 2 wagons complets. « Oh, je les embarquerai au chemin de fer à 3h42 du matin et je prendrai place dans l'un des véhicules. 7 chevaux et un homme, on serait à l'aise. » Mais il prétendait qu'un garçon de ferme lui serait indispensable pour conduire les bêtes à la gare, tandis que le père soutenait qu'il n'avait besoin de personne. « Voulez-vous que je vous mette d'accord ?» dit la marraine entre deux bouchées. « Allez-y. J'accompagnerai Monsieur Jean. Cela me fera commencer mon étape de bonheur et me procurera le plaisir de vous rendre un léger service en échange de votre hospitalité. » La proposition fut acceptée aussitôt, à la grande joie du Parisien, dont le cerveau fertile venait d'imaginer un nouvel expédient. Le 21 mars, à 3h, le jeune homme quittait la ferme. Il guidait un groupe de 7 chevaux. Jean menait les 7 autres. Le paysan s'étonna en constatant que son compagnon avait retourné son vêtement de façon que la doublure fût en dehors. Il lui demanda la cause de ce déguisement. Le journaliste répondit gravement « Je n'aime pas attirer l'attention. Je remplis les fonctions de palefrenier, je dois avoir l'air d'en être un. Or, la doublure de flanelle à large carreau me donne l'aspect d'un cocher en corvée. Rien de plus naturel dès lors que de me voir embarquer des chevaux. » Jean fut surpris de ce scrupule de mise en scène. Sa face rougeaude prit une expression ahurie, mais il n'insista pas. La marraine s'acquitta de son rôle à merveille. Il surveilla l'embarquement des bêtes, installa le fils du fermier dans son wagon avec une sollicitude dont le garçon lui fut reconnaissant et l'enferma soigneusement. Cela fait, il promena autour de lui un regard circulaire. Les employés du chemin de fer ne s'occupaient pas de lui. Jean était du pays connu de tous, on n'avait aucune raison pour surveiller ses mouvements. L'instant était propice au voyageur, qui d'un bond s'élança dans le second wagon et se dissimula derrière les bottes de foin empilées dans un coin pour nourrir les animaux durant la route. Il mettait à exécution le plan conçu la veille à la ferme. Le coup de sifflet du départ retentit, un soupir de satisfaction lui répondit. Lentement, le train s'ébranla. On était en route pour Tonnerre. Mais bien longue fut la journée. Par bonheur, Armand s'était muni d'un solide talon de pain qui empêcha la faim de le talonner. Villefranche, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Chagny furent franchis sans difficulté, mais à Périgny, près de Dijon, le voyageur non déclaré faillit être surpris. Profitant de l'arrêt de 2 heures, Jean vint renouveler la nourriture des chevaux. Heureusement, l'obscurité était profonde déjà. Sans cela, il eût immanquablement découvert le journaliste tapi dans un angle du wagon. On repartit. Fatigué, la marraine s'étendit sur le plancher et s'endormit. Durant son sommeil, le train filait, dépassant Dijon, puis nuit sous Avière. Vers 11h du matin, le 22 mars, il entrait en gare de Tonnerre. Là, il fallait s'esquiver rapidement. Le jeune homme ouvrit la portière, regarda au dehors. Rien d'inquiétant n'était en vue. Il sauta sur le quai. Mais il jouait de malheur. À l'instant où ses pieds touchaient le sol, Jean quittait lui-même le wagon qui, depuis 31 heures, lui servait de logis. Reconnaître l'hôte de son père, se persuader que cet individu ne pouvait sortir d'un véhicule loué par lui sans les plus noirs desseins, fut pour sa défiance villageoise l'affaire d'une seconde. Et, sans hésiter, d'une voix retentissante qui attira tous les employés, il lui hurla « Au voleur !» Lavaret eut un geste de rage, se niait, allait ameuter le personnel contre lui, il serait arrêté, alors... Eh bien non, il ne serait pas dit qu'il échouerait au port sans avoir tout mis en œuvre pour éviter ce malheur. Comme des ressorts, ses jarrets se détendirent, et à une allure éperdue de fauve traqué, il traversa la gare, la cour des marchandises, et se trouva dans la ville. À 100 mètres en arrière, Jean entraînait les facteurs, les hommes d'équipe accourant, clamant « Au voleur, au voleur !» Une ruelle était en face du fugitif. La porte ouverte d'un jardinet contigu à la première maison le fit arrêter dans son élan. « Dépisté, un ennemi est plus sûr que chercher à le gagner de vitesse !» murmura le jeune homme. Il entra dans le jardin, repoussa le battant derrière lui et attendit. Des semelles ferrées sonnèrent sur le pavé de la rue. Il respira, ses adversaires dépassaient sa retraite. « Je l'ai vu au tournant de la rue, là-bas !» clama un employé. Et toute la bande hurlant « Au voleur !» fila dans la direction indiquée. Armand se crut sauvé, mais voici qu'un bruit léger le fit tressaillir. Une jeune fille était sortie de la maison. Voyant un étranger dans son jardin, elle ne put réprimer un cri d'effroi. Le Parisien la dévisagea. C'était une gentille brunette au teint rosé. Sa camisole blanche, son jupon court et surtout le fer à repasser qu'elle tenait à la main, disaient sa profession blanchisseuse. Son parti fut vite pris. Il s'inclina respectueusement, se découvrit et de l'air le plus aimable. « Mademoiselle, dit-il, ce jardin est merveilleux. On y voit même des fleurs animées. » Elle baissa les yeux, un vague sourire flottant sur ses lèvres très rouges. Le compliment l'avait rassuré. « C'est un suppliant qui vous adresse la parole, » continua Lavarède sans avancer d'un pas. « Charmante, vous devez être bonne et prendre en pitié un pauvre garçon que les fatalités de la politique ont enfermé chez vous. »« La politique ?» dit-elle avec une réelle stupéfaction. « Oui, mademoiselle, » ajouta-t-il avec un aplomb formidable. Et il pensa par lui, « Mon Dieu, pourvu que cet enfant-là ne comprenne rien au jeu de nos institutions parlementaires. » Il raconta une histoire invraisemblable. Compromis dans une conspiration qui avait pour but de renverser le ministère, on voulait l'arrêter pour avoir des papiers dangereux. Il s'était heureusement souvenu d'un gracieux visage entrevu un jour à la fête patronale de la ville, et il venait lui demander asile jusqu'à la chute du jour. Heureusement, la fillette était naïve autant que d'âme poétique. Sauver un conspirateur d'aspect avenant lui parut héroïque. Au fond même, elle était enchantée de jouer ce rôle de providence, et ce ne fut qu'à la nuit close qu'elle lui permit de partir en lui souhaitant un bon voyage, après avoir constaté par écrit lors de son départ, sans trop comprendre pourquoi. Sans encombre, Lavarède dépassa les dernières maisons de la ville et se trouva en rase campagne. À sa gauche, les signaux lumineux du chemin de fer guidaient sa marche. Il était certain de ne pas s'égarer en réglant son itinéraire sur les disques. Et pourtant, ce raisonnement, si logique en apparence, lui fit perdre sa route. Il ne s'aperçut pas qu'il quittait la ligne de Paris pour celle de Saint-Florentin à Troyes, si bien qu'au matin, un paysan qui l'interrogea lui apprit qu'il avait fait une 20aine de kilomètres en pure perte. C'était désolant. La journée du 23 commençait, et par suite de l'incident Survenu à Tonnerre, le journaliste se rendait compte du danger de se présenter dans une gare. On pouvait avoir télégraphié dans la région. Son signalement, assurément fourni par M. Jean, était entre les mains des gendarmes. Il fallait compter surtout sur ses jambes. Seulement, les lieux inutilement parcourus dans la nuit provoquaient une certaine lourdeur des membres ambulatoires. Mais désespéré n'était pas le genre de la Varède. Courageusement, il poursuivit son étape. Un fermier auquel Rie rééditait l'histoire d'un record à pied sans argent lui offrit à déjeuner et certifia la chose. Un autre lui donna place dans sa charrette et le voitura près de 4 lieues. À la nuit, le piéton harassé s'endormit dans une grange après avoir dévoré un morceau de pain. La station de Joigny était proche. Le jour venu, il se rendit dans cette ville et rôda autour de la gare. Mais un employé le regarda de travers. « On dirait l'homme de Tonnerre » grommela-t-il. Avant que le doute de l'agent se fût transformé en certitude, Argent jugea bon de déguerpir. Il commençait à douter du succès. Le lendemain, avant 6 heures du soir, il devait être à Paris, rue de Châteaudun, sous peine de perdre tout droit à l'héritage de son cousin. Et 160 kilomètres lui restaient à franchir. Tout le jour, il marcha désespérément, mais l'étape forcée de la veille pesait sur lui. La nécessité d'éviter les villes au moyen de longs détours ralentissait sa course. Avec cela, pour toute nourriture, il ne prit qu'une jatte de lait et un croûton que lui octroya une paysanne. À la nuit tombée, il était en vue de Sens. Mais ses genoux pliaient sous lui. Au coin d'un petit bois, 2 hommes en blouse avaient allumé un feu. De leurs bissacs posés à terre, ils tiraient des tranches de pain, charitaient des chaumières. Le jeune homme vint à eux, se soutenant à peine. « Oui, pas d'argent, leur dit-il, je suis là et j'ai faim. »« Assieds-toi et mange, » répondit un des personnages d'une voix enrouée. « Sommes des roulants. On va de ville en ville pour avoir de l'ouvrage. On sait ce que c'est qu'avoir l'estomac vide. Voilà du pain et tout à l'heure tu prendras ta part des pommes de terre qui cuisent sous la cendre et de la chopine de vin qui est dans ma gourde. » Les pauvres gens partageaient ce qu'ils possédaient. Avec eux, Armand n'avait pas eu besoin d'imaginer un conte. Il lui avait suffi de prononcer ces mots « j'ai faim ». Tandis qu'il se livrait à ses réflexions philosophiques tout en cassant une croûte, les 2 hommes avaient repris leur conversation interrompue. « Ah, tu disais tout à l'heure que tu pariais pour Chapuisard. »« Ouais, je le disais. 20 sous qu'il arrive le premier. » « Top là, et moi je tiens pour Céron. 20 sous, 20 sous. »« Tiens, » questionna le journaliste, « vous pariez sur quoi donc ?»« Ben, sur la grande course de bicyclette organisée par le petit journal entre Lyon et Paris. Les coureurs partent ce soir de la place Bellecour. » Et après un silence, l'homme ajouta d'un air entendu, « Oh, il y a des champions sérieux. » Céron a gagné la course de Brest et Chapurza a battu le record de l'URSS. Oh, ça sera disputé. » La Varède admira ce roulant, si au fait du sport vélocipédique. Mais les pommes de terre étaient cuites, il reçut sa part, but d'un coup de vin et s'allongea par terre à côté de ses compagnons. Il se réveilla, frais et dispo. Les ouvriers furent ahuris lorsqu'il les pria de certifier qu'il lui avait accordé l'hospitalité de la belle étoile. Mais il leur serra la main de si vigoureuse façon qu'ils le regardèrent s'éloigner sur la route de Sens en disant « Oh, je sais pas ce que c'est, mais c'est un zig !» Armand filait d'un pas élastique vers la cité sénonaise. Il allait jouer son batou. Le soir même, à 6 heures, on l'attendait chez Maître Panabert, dont l'étude était distante de Sens d'environ 30 lieues. À tout prix, il fallait se procurer un véhicule plus rapide que les jambes humaines. Il n'y avait plus à barguigner, au risque d'être arrêté, il prendrait le chemin de fer. À 9 heures du matin, il atteignait Sens et se faisait indiquer l'emplacement de la gare. Renseigné, il se lança dans les rues de la ville. Tout à coup, un cri le cloua sur place. « Monsieur Lavarède !» Il leva les yeux et demeura stupéfait. Mademoiselle Pénélope Bouvreuil était devant lui, plus sèche, plus anguleuse que jamais, la fille de l'usurier lui souriait. « Ah !» reprit-elle, « dire que depuis un an, j'attends votre retour ici. « Vraiment ?» fit Armand pour dire quelque chose. Il cherchait comment il pourrait se débarrasser de cette amante tenace. « Ah, si vous saviez comme j'ai été heureuse ! Quand papa m'a télégraphié de Messine, j'arrive, Lavarède renonce au testament. J'ai pensé aussitôt, alors je puis l'épouser, faire son bonheur. « Vous êtes bien aimable, » fit machinalement le jeune homme. « En vain, mon père me répétait, ce monsieur Armand est pas parti pour toi, mais je sentais en moi-même qu'il se trompait. J'avais raison, puisque vous voici. Ah, vous êtes venu enfin !» Le journaliste serrait les poings en écoutant ce discours. « Et monsieur Bouvreuil ?» demanda-t-il. « Oh, vous jouez de malheur, il est parti pour Paris tout à l'heure. » « Je viens de l'accompagner à la gare, il va chez le notaire, m'a-t-il dit. « Mais cela ne fait rien, venez à la maison, il sera bien content de vous trouver à son retour ce soir. » Calme, Lynn, elle passait sa main sous le bras du jeune voyageur, qui, au mot de notaire, avait commencé de rager. « Vous l'avez fait courir, ce pauvre papa, » ajouta la tendre Pénélope. « Figurez-vous que le médecin l'a menacé d'une congestion s'il reprenait sans transition ses habitudes sédentaires d'autrefois. Il lui a prescrit un vigoureux exercice quotidien, si bien qu'il a acheté une bicyclette et que tous les jours il s'impose 3 ou 4 heures de pédale. »« Sapristi !» laissa échapper le voyageur. « Vous dites ?» Il changea un continent de ton et de manière. « Oh, que je suis impardonnable, je vous tiens debout, là, au milieu de la rue. Acceptez mon bras, je vous prie, et conduisez-moi vers la maison. Vous avez rêvé de me donner le bonheur. » Pénélope ne se fit pas répéter l'invitation. Sa main sèche agrippa le bras d'Armand, et d'un pas rapide, elle entraîna le futur de son choix. Les pieds de la jeune personne ne touchaient pas la terre. Elle avait des ailes. En quelques minutes, on atteignit l'habitation Bouvreuil. Une coquette maison, précédée d'une cour, fermée par une grille ouvragée. À droite et à gauche se trouvaient l'écurie et la remise. Mademoiselle Bouvreuil montra la première. « C'est là qu'est le cheval de papa, sa bicyclette. » Elle riait de sa plaisanterie. « Voyons le cheval, » riposta gaiement la marraine. « Oh, il est très joli, nickelé, muni de pneus, avec tous les derniers perfectionnements. Il est superbe !» Armand ouvrait la porte et, pour examiner le vélocipède, le tirait dans la cour. « Et il se tient là-dessus » fit-il après un moment. « Ah, très bien. Oh, mais cela doit être horriblement difficile. Oh, il paraît que non. » En parlant, le Parisien fourchait le bicycle, mais l'appareil penchait à droite, à gauche, aussitôt qu'il tentait de poser ses pieds sur les pédales. Pénélope s'esclaffait. Son amoureux prit une mine froissée. « Oh, moi, ici, dans cette cour pavée, c'est impossible. Sur une route, j'y arriverai. Mais essayez, la chaussée de la rue est en terre. » Armand sortit et recommença ses essais, zigzagant, manquant de tomber à chaque pas, il s'éloignait insensiblement, et debout sur le trottoir, Pénélope se tenait les côtes. Soudain, elle demeure comme pétrifiée, la bouche ouverte. Parvenu à 30 ou 40 mètres d'elle, son fiancé avait brusquement et solidement sauté en selle et la machine conservait son équilibre. « Monsieur Lavare, aide !» clama la fille du propriétaire. L'autre se retourna. « Je vais rejoindre votre père, je vous renverrai le vélo ce soir, par chemin de fer. » Sur ces mots, il se prit à pédaler avec un tel entrain qu'il disparut avant que l'abandonné fût revenu de sa surprise. Alors Armand commença une course folle. Penché sur le gouvernail, il allait tête baissée, sentant avec une sorte d'ivresse la route glisser sous ses roues. Il traversait les hameaux, les villages, sans un arrêt, sans un regard au commère, qui, du seuil des maisons, s'étonnait de la fougue de ce cycliste. À Champagny, il vint donner dans une troupe de vélocipédistes. Des exclamations se croisèrent, cris de surprise en des inflexions ahuries. Il n'y prit pas garde. Gagné par la griserie de la vitesse, il laissa le groupe en arrière, sans voir les gestes animés des promeneurs. Mais en arrivant près de Montereau, Lavarède croisa un jeune homme monté sur une bicyclette et dont la culotte courte, le maillot, la petite casquette ronde, disaient assez la passion pour le sport vélocipédique. Celui-ci eut aussi un « ah » de stupeur. Mais plus curieux que les précédents, il évolua et se lança à la poursuite du journaliste qu'il rejoignit dans la ville. « Comment, c'est vous les gens ? » fit-il en marchant sur la même ligne. Sans lever la tête, Armand répliqua « Oui, c'est moi !»« Mais bravo, courage, ils ne vous rattraperont jamais. Oh, je vais télégraphier, ça c'est tout à fait étonnant !»« Mais que va-t-il télégraphier ?» bougonna le Parisien, pédalant toujours. Les kilomètres succédaient aux kilomètres. Par moments, le jeune homme éprouvait des crampes dans les jambes. Il ralentissait alors son allure et prêtait quelque attention au paysage forestier. Dans un de ses repos relatifs, un poteau dressé sur un côté de la route lui fournit cette indication. Fontainebleau, 1 km 200 m. Devant lui, la chaussée s'étendait à travers bois, tout droite, jusqu'aux premières maisons de la ville. Un mouvement bizarre se produisait là. Des gens allaient et venaient. En approchant, Armand constata qu'une table était dressée sur le trottoir. Des messieurs, la boutonnière ornée d'un flot de rubans multicolores, se tenaient immobiles. Mais à l'arrivée du voyageur, ils se précipitèrent vers lui. « Arrêtez-vous un instant. Oh, j'ai pas le temps. Mais vous prendrez bien un verre de champagne. Oh, oui. » Cela volontiers. Une flûte d'ail mousseux lui rendit sa vigueur première. Il reprit sa course. « Je ne comprends rien à ce qui se passe. Mais qu'importe, le champagne était bon. » À Melun, c'est autre chose. Avec force politesse, on le supplie de prendre du chocolat. Il accepte encore, toujours sans s'expliquer ses gracieusetés. Et ainsi, tout le long de la route, du thé, du cognac, des cordiaux. Et ces gens sont fort aimables, mais le diable m'emporte si je comprends pourquoi ils s'intéressent tant à moi. De lieu en lieu, des bicyclistes l'accompagnent, fendant l'air devant lui. Toute la France semble comprendre son désir d'atteindre Paris. À 4 heures, il fait une entrée triomphale à Charenton. Et là, déguste un excellent consommé, agrémenté de boulettes de blanc de poulet. « Ne vous trompez pas le chemin dans Paris !» lui crie un cycliste. Et il lui donne un itinéraire de rue, aboutissant au petit journal. « Juste à l'entrée de Châteaudun !» pense Armand. « Mais qui donc a dit à ce jeune homme que j'allais chez le notaire ?» Presque à la même heure, Sir Merliton et Miss Aurett suivaient la rue Lafayette à Paris, se rendant pour la 5e fois de la journée chez Maître Panabert. Leur visite précédente les avait remplis d'inquiétude. Aucune nouvelle n'était parvenue au notaire depuis la lettre datée de Livourne. Aussi le gentleman était-il grave et sa fille un peu triste. Ils marchaient côte à côte, sans échanger une parole. Qu'aurait-il dit? Sinon que l'absence de leur ami leur paraissait inexplicable. Lui, mais si adroit, comment n'était-il pas encore arrivé? Comment n'avait-il pas donné encore signe de vie? À la hauteur de l'hôtel du Petit Journal, les Anglais furent arrêtés par la foule. On se pressait sur les trottoirs, on discutait. Les fenêtres de l'hôtel étaient garnies de curieux. Monsieur Figard, organisateur de la course vélocipédique de Lyon-Paris, se montrait partout. Tantôt à une croisée, tantôt dans la rue, il parlait avec de grands gestes. Tout en lui trahissait l'effarement. « Non, c'est invraisemblable !» répondait-il aux nerveuses interrogations des abados, des badauds. « Non, non, mais non, 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 c'est pas possible! Ils ont quitté Lyon hier soir. Aucun ne saurait encore être si près de Paris. Oh, il y a erreur, il y a fausse alerte. » Comme pour railler sa juste appréciation, sur l'immense écran disposé sur l'entablement du premier étage, un garçon du journal appliquait une pancarte qui souleva les acclamations des assistants. Elle portait ces mots. « Le premier est signalé à Charenton, on ne sait pas son nom. » Sir Murrayton et Horace s'éloignèrent en haussant les épaules. Ils ne se doutaient pas que tout ce bruit était provoqué par leur ami monté sur la machine de Bouvreuil. À l'étude de Maître Panhabert, ils ne virent pas Armand, mais seulement le propriétaire radieux. « J'ai voulu constater des visu la défaite de bon genre, » dit-il avec un sourire victorieux. Depuis Messine, il lui appliquait de nouveau ce titre. En quittant l'hôtel de la glorieuse Italie, où il s'était rendu pendant que le gentleman délivrait sa fille avec le concours des Malouins, l'usurier s'était rendu rue Capranica. Il y avait trouvé son complice, râlant, le crâne fracassé, et avait vite deviné la scène. Ne se souciant ni de se trouver en présence de l'Anglais, ni d'avoir maille à partir avec la police, il avait abandonné José et était rentré en France. À Sens, il avait déclaré à Pénélope que le journaliste ne se serait jamais envoyé en possession de son héritage, il en était persuadé lui-même, mais le matin du 25 mars, une crainte mal définie l'avait saisi. Le voyage de Paris en chemin de fer, une simple plaisanterie pour un homme arrivant de Chine, n'était pas pour l'arrêter. Il le fit. Aussi, dans le cabinet du notaire, Bouvreuil manifestait hautement sa joie. « Quand je me suis mêlé de quelque chose, disait-il gonflé de vanité, ça a toujours réussi. Je n'ai jamais fait une mauvaise affaire, moi. » Sans le saluer, le père et la fille s'assirent, attendant. 5 heures sonnèrent. Et tout à coup, un brouhaha monta de la rue. 10 secondes n'étaient pas écoulées que le timbre de l'entrée résonna. Des pas rapides frappèrent le plancher de l'étude. La porte du cabinet s'ouvrit et la Varenne, couvert de poussière, parut sur le seuil. 3 cris saluèrent son apparition. Lavarède, lui ! Oh ! Le jeune homme eut un doux regard à l'adresse d'Aurette, puis il s'approcha du maître Panhabert. Ce jour-là, 25 mars à 5 heures, c'est-à-dire en gagnant 1 heure sur le délai fixé par feu mon cousin Richard, j'ai accompli le tour du monde en ne dépensant que 25 centimes. Jusqu'à Messine, Sir Murlyton, ici présent, me contrôlait. À partir de ce point, voici des certificats qui établissent l'emploi de mon temps. Veuillez vérifier, Maître Panhabert. Un mot cependant, à Sens, ce matin j'ai pris un vélocipède. Je n'ai aucun papier le prouvant, mais demain les journaux en parleront. C'est, je crois, suffisant. Puis pendant que le notaire feuilletait les constatations, Il se tourna vers l'usurier et, un peu narquois, bien que très poli, « Mademoiselle Pénélope m'a prêté votre bicyclette. Elle est excellente. On me la garde en bas, vous pouvez la reprendre. Vous me remercierez bien, mademoiselle, votre fille, de ma part. Tout cela est parfaitement en règle, déclara le notaire. Mes compliments, monsieur. L'héritage est à vous. Un détail seulement, en votre absence, mon cher monsieur, des créanciers vous ont poursuivi. » Votre concierge, se souvenant de mon adresse, est venu me consulter, et moi, certain que vous voudrez bien me conserver votre clientèle, j'ai pris la liberté de faire porter ici tous les papiers timbrés, protège, jugement, commandement, saisie, etc., afin de procéder au règlement de votre retour. Le journaliste se prit à rire. Ah, je n'ai qu'un seul créancier, c'est M. Bouvreuil. Il avait racheté toutes les créances et les avait confiées à des huissiers divers, à ce que je vois. Dame, 20 liasses au moins de papier timbré font une somme de frais de 12 000 francs au moins. Alors vous remettrez le compte à monsieur, c'est lui qui règle cela, hein, ainsi qu'en fait foi l'écriture que voici. Il présentait la quittance complète et définitive remise par l'usurier près de Sesguedine. Le père de Pénélope poussa un sourd grognement. « Tout est liquidé !» reprit joyeusement le jeune homme. « Après les satisfactions d'amour-propre, donnons-en une à l'amour pur !» Et s'inclinant devant le gentleman, « Mon cher ennemi, dit-il d'une voix émue, j'ai l'honneur de vous demander la main de mademoiselle votre fille. » « Et moi, mon cher ami, s'écria l'Anglais en le serrant dans ses bras, j'ai le grand plaisir de vous l'accorder. » Aurette s'était levée, rougissante. Armand embrassa la blonde fille d'Albion. « All right, » fit Merliton. « Et maintenant que la question conjugale est traitée avec M. Lavarade, j'en ai une autre à régler. » Avec M. Bouvreuil ici présent.
Avec moi, susurra le propriétaire d'un ton aimable.
Avec vous-même, monsieur. Quand vous avez à Messine séquestré ma fille, j'ai juré de vous corriger la première fois que je vous rencontrerai.
Me corriger?
Oui, je tiens parole. Et le poing de l'Anglais, lancé violemment en avant, frappa avec un bruit mat le visage de l'usurier. Décidément, ce jour-là, Bouvreuil n'avait pas fait une bonne affaire. C'est Lavarède qui l'avait faite, en trouvant tout ensemble la fortune et le bonheur.